Christ. Il nous faut encore considérer la puissance de l'âme de Jésus. Vous voyez, ceci, c'est juste avant les déficiences. Donc on voit d'abord toutes les qualités qui sont dans l'âme de Jésus, puis ensuite les déficiences. L'âme du Christ a-t-elle possédé la toute-puissance absolue ? A-t-elle possédé la toute-puissance relativement à la créature corporelle ? A-t-elle possédé la toute-puissance relativement à son propre corps ? A-t-elle possédé la toute-puissance quant à l'exécution de sa propre volonté ? Alors, d'abord, l'article premier, l'âme du Christ a-t-elle possédé la toute-puissance ? Donc, vous voyez, c'est essayer de comprendre. Nous avons vu du côté de l'intelligence le lien qui existe entre l'âme du Christ et le point de vue de la grâce et le point de vue de la science de Dieu. Maintenant, c'est le point de vue de la puissance. C'est toujours la division que prend saint Thomas. Il y a le point de vue de la connaissance, le point de vue de la volonté et le point de vue de la puissance. Alors, le sept contrat. Cependant, ce qui est propre à Dieu ne saurait convenir à la créature. Mais la toute-puissance appartient en propre à Dieu. Selon cette parole de l'Exode, c'est lui qui est mon Dieu et je le glorifierai. Parole suivie de cette autre, son nom est le Tout-Puissant. L'âme du Christ, étant une créature, ne possède donc pas la toute-puissance. La toute-puissance est propre à Dieu, c'est évident. C'est l'attribut du Dieu créateur. Il est tout puissant. C'est d'une certaine manière, quand saint Thomas essaie d'étudier les différentes manières dont Dieu existe, au terme, avant la béatitude, c'est la toute-puissance. Ça vient en dernier lieu. Et c'est la qualité propre du créateur. Dieu créateur est tout puissant. Alors voici dans le corps de l'article. Comme nous l'avons déjà dit, dans le mystère de l'incarnation, l'union s'est faite dans la personne, tout en maintenant néanmoins la distinction des natures, lesquelles conservent ce qui leur est propre. Or, la puissance active d'une chose suit sa forme, laquelle est principe d'agir. Par ailleurs, la forme tantôt s'identifie à la nature même de la chose, comme dans les êtres simples, tantôt représente le constitutif de cette nature, comme dans les êtres composés de matière et de forme. Il apparaît donc manifestement que la puissance active d'une chose suit sa propre nature. À la forme suit la puissance, à la nature suit le point de vue de la puissance. Alors, voyez, on ne précise pas du tout ce que c'est que la puissance, hein. On dit que ça suit. Et vous voyez, il y a deux choses qui suivent la forme, l'inclination vers le bien et la puissance. Parce que c'est toujours le même raisonnement que prend saint Thomas quand il s'agit de l'appétit naturel. L'appétit naturel suit la forme. Et il dit ici, la puissance active d'une chose suit sa forme, laquelle est principe d'agir. Potentia activa cuius libet rei sequitur formam ipsius. Quis principium agendi. La nature forme, à la nature forme, suit un principe d'activité. À la nature propre de l'élément, suit une capacité d'efficience. La puissance est une capacité d'efficience, ce n'est pas l'inclination. Au fond, c'est ça qui est très difficile au point de vue philosophique à bien préciser, parce que les deux choses se suivent. Vous avez le point de vue de la forme. En définitive, c'est nature forme. Ça derrière, toujours, la forme, à la forme suit l'appétit, l'appétit naturel, vers le bien. Et puis à la forme suit la puissance active. La puissance active, c'est le point de vue d'efficience. Donc, il y a toujours la distinction entre les deux. Le point de vue de l'appétit naturel vers le bien, c'est l'amour. C'est l'amour naturel. Et la puissance active, c'est le côté d'efficience. C'est agir sur un autre. Dans l'appétit naturel, on n'agit pas sur un autre. C'est nous-mêmes qui sommes transformés par le bien. C'est ça le propre de l'amour, on est transformé par le bien. Tandis que la puissance active, on agit sur un autre. On réalise une œuvre sur un autre. Donc, ces deux aspects sont toujours à considérer en parallèle. Et ça demande, ne précise pas beaucoup. C'est tout simplement essayer de comprendre ce que représente ce point de vue de la puissance active et le point de vue de la pitié. Le feu a une puissance active de chauffer sur un autre. Et le feu a une forme qui lui est propre, c'est d'aller vers son lieu. Et donc, c'est assez délicat de bien discerner la forme qui détermine, la forme qui est principe efficient et la forme qui est source d'impétit naturel. Alors, c'est pour ça qu'il dit « Or, la puissance active d'une chose suit sa forme, laquelle est principe d'agir ». Quand il dit principium agendi, donc point de vue de l'efficience. Par ailleurs, la forme tantôt s'identifie à la nature même de la chose, et c'est là où il précise, la forme tantôt s'identifie à la nature même de la chose, nature-forme, c'est ce que je vous disais. Alors vous voyez les différentes considérations de la même réalité. La même réalité peut être considérée sous des aspects différents. Donc la forme tantôt s'identifie à la nature même de la chose, comme dans les êtres simples, pour ça je prends le feu, tantôt représente le constitutif de cette nature, comme dans les êtres composés de matière et de forme. Les êtres de matière et de forme impliquent justement ce point de vue de la complexité. Donc c'est plus uniquement la forme, c'est aussi la matière. Vous voyez ? Il apparaît donc manifestement que la puissance active d'une chose suit sa propre nature. Donc la puissance active, la capacité d'efficience d'agir sur un autre, ça suit la nature même de cette chose. C'est de cette manière que la toute-puissance est une conséquence de la nature divine. La manière propre d'exister de Dieu, c'est d'impliquer la toute-puissance. Parce qu'il est l'être premier, acte pur. Et donc il est capable de transformer tout. Et la toute-puissance de Dieu est capable de créer. C'est la seule puissance qui est capable de créer. C'est-à-dire d'agir sans le concours de personne. Nous agissons toujours avec le concours de quelqu'un d'autre. Parce que notre puissance ne regarde pas l'être, mais regarde la forme. Nous agissons sur les formes. Nous agissons sur les dispositions. C'est de cette manière-là qu'on agit. On agit sur les dispositions d'un être, on n'agit pas sur son être. C'est de cette manière que la toute-puissance est une conséquence de la nature divine. La nature divine, en effet, ainsi que le montre Denis, c'est l'être même de Dieu incirconscrit. Ça, c'est saint Thomas aime de prendre cette définition de Denis. Et c'est les deux aspects que prend saint Thomas, l'ipsum esse subsistens ou l'ipsum esse dei in Chris conscriptum. Il ne peut pas être défini. Dieu est celui qui n'est pas circoncis, circonscrit dans une chose. Il est incirconscrit. Il est sans limite, sans détermination extrinsèque. C'est pour ça qu'on ne peut pas le définir. Sa toute-puissance active s'étend donc à tout ce qui peut avoir raison d'être. Ça, c'est la définition la plus classique de la toute-puissance de Dieu. In Deus quod habet potentiam activam, respectus omnium, quae possunt habere ratione mentis. La toute-puissance de Dieu regarde la raison d'être. Il est l'acte pur qui donc agit sur l'être. Et la toute-puissance de Dieu regarde tout ce qui a raison d'être. C'est ce qu'on dit, seul. Ce qui est contradictoire est en dehors de la toute-puissance de Dieu. Dieu ne peut pas faire de contradictoire. Vous savez, c'est une thèse qui a été reprise constamment à travers les théologiens. Je ne peux pas mesurer l'existence de Dieu. Or, le principe de contradiction, c'est quand même quelque chose d'humain. Alors, est-ce que je puis dire ça ? Est-ce que Dieu ne peut pas faire de contradictoire ? Est-ce que ce n'est pas au contraire propre de Dieu de pouvoir faire des contradictions ? Nicolas de Cuse. C'était la grande théologie de Nicolas de Cuse. Dieu est au-delà de la contradiction. Et voyez, Hegel. C'est quand même une nostalgie très très profonde, ça. Et c'est intéressant à voir, parce que ça fait comprendre ce que c'est que la toute-puissance. Et ça fait comprendre ce que représente le point de vue de l'être. Oui. Est-ce que Dieu est au-dessus de l'être? Oui. Si Dieu est au-dessus de l'être, Dieu peut créer des contradictoires, aucune espèce d'importance. Ou est-ce qu'au contraire, la toute-puissance de Dieu est liée au point de vue de l'être? On va venir après. La nature divine, en effet, ainsi que le montre Denis, c'est l'être même de Dieu incirconscrit. Sa puissance active s'étend donc à tout ce qui peut avoir raison d'être. Et c'est précisément en quoi consiste la toute-puissance. De même, les autres choses ont une puissance active déterminée par tout ce à quoi s'étend la perfection de leur nature. Ainsi, sicut et quilibet alia res habet potentiam activam respectu eorum atque se extendit perfectio sui naturae. C'est la perfection de la nature qui mesure le point de vue de, de leur puissance. Le corps chaud peut chauffer. Dès lors, puisque l'âme du Christ est une partie de la nature humaine, il lui est impossible de posséder la toute-puissance. Qu'est-ce qu'il y avait comme question ?
La contradiction apparaît au niveau de l'intelligibilité.
Oui, oui. On va dire la raison d'être.
Ça, donc, la raison d'être, c'est déjà...
Oui, non, c'est plus... Il y a deux manières de regarder le principe de non-contradiction. Il y a la manière de regarder comme vous le dites, mais ce n'est pas suffisant. C'est l'affirmation et la négation par rapport à la réalité existante. C'est qu'une même réalité ne peut pas en même temps être et ne pas être. Donc c'est le jugement d'existence. Oui, mais c'est le jugement d'existence, ce n'est pas l'opération d'intelligence. C'est l'intelligence en tant qu'elle est mesurée par l'être.
Dans son rapport.
Parce qu'autrement, vous voyez, autrement, vous mettriez le principe de non-contradiction, au fond, uniquement au niveau critique.
Qui implique un rapport avec l'être.
Oui. Mais le fondement de la critique, c'est la raison d'être. Oui. Le jugement d'existence comme tel échappe à la critique. C'est là, au fond, un point de vue qui est très intéressant et très important, et on le retrouve ici. Vous voyez ? C'est de savoir, au fond, qu'est-ce qui mesure l'intelligence. Qu'est-ce qui mesure l'intelligence ? Primo cadit in intellectus, ens. Hein ? C'est ens. C'est ens qui est la mesure. Et ce n'est pas l'intelligence qui est mesure de l'être. Tandis que si vous dites que le principe de contradiction, c'est au niveau de l'intelligibilité, vous voyez ? Je resterai uniquement fermé dans l'intelligence et dans mes opérations intellectuelles. Donc, je resterai, si vous voulez, tourné vers l'intelligence et je préciserai tout ce que l'intelligence peut atteindre. Affirmation et négation. Tandis qu'au contraire, je regarde le contenu de l'affirmation, jugement d'existence, qui est tout, qui saisit l'être. Et donc, le jugement, la contradiction, regarde ce qui est. Vous voyez ? Et c'est en ce sens-là que je peux l'appliquer à Dieu, autrement je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas dire que la toute-puissance de Dieu, vous voyez, ne peut pas faire quelque chose de contradictoire. La toute-puissance de Dieu est au-delà de tout le domaine de l'intelligibilité, de mon intelligibilité.
En fait, là, c'est même pas l'intelligibilité, c'est le mode selon lequel on s'est dit.
C'est le mode.
Donc, ce mode étant humain, donc c'est...
Non, mais le principe de contradiction n'est pas le mode humain. C'est au-dessus. C'est la réalité qui fonde l'ens. C'est pas le mode humain.
Pour nous, le problème peut se poser que parce qu'on saisit l'être d'une manière complexe. Si on saisissait l'être d'une manière simple,
oui.
Le problème ne se poserait même pas.
Donc,
c'est en ce sens-là, si vous voulez, c'est évident que ça touche quelque chose qui est au-dessus.
Attention. Oui, mais c'est, ça c'est... Vous regardez la condition du principe de non-contradiction, mais non pas ce qu'il est. La condition du principe de non-contradiction, c'est parce que j'ai l'intelligence abstraite. Ça c'est sûr. Ça c'est la condition. Mais le principe de non-contradiction regarde ce qui est. Et pas la condition de mon intelligence.
Au-delà de ce mot, on exprime quelque chose.
Ah oui, on exprime la réalité. Oui. C'est assez subtil, mais je crois que c'est très important, parce qu'autrement, justement, c'est là où Nicolas de Cuse, vous voyez, considérant, confondant condition et contenu du principe de non-contradiction, dit Dieu est au-dessus. Dieu est au-delà de tout mon conditionnement intellectuel, ça c'est bien évident.
Ce qui est curieux, c'est qu'il projette le conditionnement intellectuel en Dieu en voulant le dépasser.
Non, c'est pas ça que je dirais.
Que Dieu peut produire les contradictoires, c'est qu'en fait il considère que Dieu peut connaître, peut se poser le.
Non, non. Donc, c'est parce qu'il ramène la contradiction au conditionnement intellectuel. Alors, Dieu est au-dessus de mon conditionnement intellectuel, c'est évident. Donc, Dieu peut tout faire. Ce qui est tout à fait juste, Dieu peut tout faire. Et quand je dis que Dieu ne peut pas faire le contradictoire, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas tout faire. Il peut tout faire. Tout ce que sa sagesse implique.
Oui. Je dirais la conclusion inverse de celle que.
De vous dire quoi ?
Si Dieu est au-delà d'un conditionnement.
Oui.
Que j'ai dit qu'en lui, la contradiction peut exister. Un mouvement peut la produire.
Ah oui, mais la contradiction n'existe pas en Dieu.
Mais que qu'il peut la produire.
C'est pas ça qu'il dit. Il dit que Dieu n'est pas. On ne peut pas dire que le principe de contradiction mesure en quelque sorte, si vous voulez, la toute-puissance de Dieu. On mesure en ce sens que je dis Dieu ne peut pas faire des contradictoires. Il ne peut pas faire que, en même temps, l'être soit et ne soit pas. Voilà. Tandis que Nicolas de Cuse dit Dieu peut faire que l'être soit et ne soit pas. Pourquoi ? Parce qu'il considère que le principe d'une contradiction est uniquement le conditionnement de notre intelligence. Oui. Comme ça a joué beaucoup. Parce qu'il y a toute une grande. Vous voyez, ça touche à la question de l'infini. La toute-puissance et l'infini. Je crois que ce sont deux aspects qui constamment montre un peu dans l'histoire de la pensée ou l'histoire de la théologie deux positions qui sont très intéressantes parce qu'en réalité, on retrouve le primat de l'être ou le primat de l'intelligible. Et c'est tout le temps là-dessus que se trouvent les questions. Mais au fond, tout se ramène tout le temps à ça. Qu'est-ce qui est premier ? Est-ce que c'est Else ou est-ce que c'est l'intelligence ? Dans une position réaliste à la manière de saint Thomas, l'intelligence est relative à l'être, donc l'intelligence est seconde. Et l'être est premier, ce qui est premier. Et je suis capable de saisir quelque chose qui me mesure. C'est ça le point de vue de l'humilité d'intelligence, qui accepte d'être toute relative à ce qui est. Tandis qu'au contraire, dans la position de Nicolas de Cuse, ou la position de Descartes, ou la position, c'est l'inverse. C'est l'intelligence qui est première, et else est seconde. Pourquoi ? Parce que else ramène à l'intelligibilité.
Dès qu'il n'y a plus de métaphysique, il n'y a plus de mathématiques.
Dès qu'il n'y a plus de métaphysique, exactement, dès qu'il n'y a plus de métaphysique, c'est la métaphysique seule. La métaphysique seule sauve le primat de l'être. Et c'est en ce sens-là que le primat de l'être montre bien que la critique est toujours seconde. Elle ne peut pas être première. Parce que si la critique était première, ce serait l'intelligibilité qui serait première. À partir de Descartes et Kant.
Est-ce qu'on peut dire que les mathématiques arriveront à résoudre le problème actuel qui est justement de dépasser la non-contradiction ?
Dans les mathématiques, il n'y a pas de danger.
Et les sciences
parce que les mathématiques ne saisissent pas ces deux contradictions. Ils le saisissent à leur manière, ils le saisissent au niveau des formes. Donc ce n'est plus les contradictoires, c'est les formes. Donc c'est le contraire. Oui. Et Hegel ne saisit pas le principe de non-contradiction, il saisit le principe de contraire. Pourquoi ? Parce que pour lui, c'est la négation et l'affirmation qu'on voit. Or, l'intelligence est au-delà de l'affirmation et de la négation, puisque les deux viennent de l'intelligence. Donc l'intelligence comme telle est au-delà. Si donc je ramène l'être à l'affirmation et je ramène mon être à la négation, je dis l'intelligence est au-dessus de l'être et de la négation. Et le tour est joué. C'est pour ça que là, on est devant quelque chose de très subtil, tout à fait premier. Qu'est-ce qui est premier ? L'intelligible ou l'être ? L'être ou l'intelligible ? Et pratiquement, si on regarde attentivement l'histoire de la pensée, on peut dire qu'il n'y a que deux manières de regarder l'histoire de la pensée philosophique, ou le primat de l'intelligence sur l'être, ou le primat de l'être sur l'intelligence. Et ça se ramène tout le temps à ça, fondamentalement, Platon et Aristote. Oui, c'est pour ça qu'on a dit que toute l'histoire de la pensée occidentale, c'était des commentaires sur Aristote et Platon. Et c'est vrai, c'est des commentaires sur Aristote et Platon. C'est quelque chose qui revient tout le temps, et c'est en ce sens-là que c'est utile de revenir à la source, et qu'on ne peut se renouveler qu'en venant à la source. Si on ne revient pas à Platon et à Aristote, on ne voit pas. Et on a toujours besoin de Platon pour mieux comprendre Aristote. Parce que notre intelligence est toujours un peu... elle compare. Hein. On a tellement de peine de saisir directement la réalité. Donc on a besoin d'une comparaison, ça c'est sûr, c'est notre conditionnement humain. Et c'est pour ça que si on ne regarde qu'Aristote, on risque de ne pas le comprendre dans toute sa pureté. Il est né face à Platon. Ça ne veut pas dire que le point de vue de l'intelligibilité est nécessairement premier et que l'être ne va apparaître qu'après. Parce qu'on pourrait encore se servir de ça en disant, voyez bien, ah, il fallait Platon pour Aristote, donc il faut la critique pour la métaphysique. Non. Génétiquement, c'est vrai. Génétiquement, Platon est avant. Mais selon l'ordre de perfection, non. Alors voyons tout de suite. Saint Ambroise écrit « La puissance que le Fils de Dieu possède naturellement, l'homme devait la recevoir dans le temps. Mais cela devait se faire, semble-t-il, principalement quant à l'âme, qui est la partie principale de l'homme, puisque, d'autre part, le Fils de Dieu possède la toute-puissance de toute éternité. Il apparaît donc que l'âme du Christ a dû recevoir dans le temps la toute-puissance. » Très très intéressant ça. Vous voyez, c'est tous les rapports de l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Dans l'ordre surnaturel, vous mettez une quasi-infinité dans l'âme du Christ, et dans l'ordre naturel, vous rappelez que la puissance qui touche le point de vue de l'âme du Christ est limitée. Parce que l'âme du Christ reste une créature, reste quelque chose de créé. C'est plus exact de dire ça. Reste quelque chose de créé. Réponse de saint Thomas, l'homme reçoit dans le temps la toute-puissance que le Fils de Dieu possède de toute éternité. Par le fait de l'union personnelle, grâce à cette union en effet, de même que l'on peut dire que l'homme est Dieu, de même l'on peut dire qu'il est tout-puissant. Non que la toute-puissance, pas plus que la déité, attribuée à l'homme, soit différente de celle attribuée au Fils de Dieu. Mais parce qu'il n'y a qu'une seule personne, à la fois Dieu et homme. C'est évident, je peux dire que le Christ est tout-puissant, parce qu'il est Dieu. Mais je ne peux pas dire qu'il est tout-puissant dans son âme humaine. Oui, c'est tout simplement, c'est l'attribution qu'il faut toujours faire attention, hein. Le Christ est tout-puissant parce qu'il est Dieu. Mais il n'est pas tout-puissant dans son âme humaine. Précisons bien. Alors, deuxième objection, la puissance de Dieu. Ce serait très intéressant de voir du reste ceux qui nient l'être pour Dieu. Qu'est-ce qu'ils font de la toute-puissance? Qu'est-ce qu'ils font de la création? C'est toutes les conséquences, hein. C'est à voir, parce qu'en fond c'est toujours une métaphysique de l'être qui affirme l'existence de l'être premier, qui permet de préciser ce que c'est que la toute-puissance. Si donc je supprime l'être de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Oui, je crois, au-dessus de l'être, parce qu'on a compris l'être au niveau des états et de la limite de l'être, on n'a pas compris la ratio unitis. Comme dit saint Thomas, on est resté, vous savez, quand il fait les étages successifs de la compréhension des philosophes, il y a des philosophes qui sont restés au point de vue des accidents, puis ils ont découvert la substance, puis ils ont découvert la ratio unitis, universelle. Alors, au fond, ils ont découvert des formes. Ils sont restés uniquement à l'état, à un niveau de la qualité. Dieu est au-dessus des qualités, c'est bien évident. Dieu n'est pas une qualité. Il est l'être premier. Mais je ne peux affirmer ça que dans la mesure où j'ai saisi ce qu'est la ratio entis. Parce que la ratio entis est au-delà du causé et de l'incausé. Deuxième objection. La puissance de Dieu est infinie, comme sa science. Mais l'âme du Christ a eu d'une certaine manière la science de tout ce que Dieu connaît, ainsi qu'il a été dit plus haut. Il semble donc qu'elle a eu également la puissance sur toute chose et qu'elle était par le fait même toute puissante. Alors, réponse. Certains répondent à cette difficulté en disant qu'il n'en va pas de la science comme de la puissance active. La puissance active, en effet, est pour une chose la conséquence de sa propre nature. Car l'action nous apparaît comme émanant de l'agent. Au contraire, la science ne vient pas de la nature de celui qui connaît, elle s'acquiert par assimilation du connaissant aux choses connues à l'aide de similitudes reçues en lui. Néanmoins, cette réponse semble insuffisante. Cette réponse est déjà très belle, elle est très intéressante. Certainement, ne la rejette pas, il la trouve insuffisante. Cette ec ratio non videtur sufficere. S'il est vrai en effet que la connaissance s'acquiert par similitude reçue, la forme intentionnelle, il est également vrai que l'on peut agir par le moyen d'une forme reçue du dehors. Ainsi, l'eau ou le fer chauffent par le moyen de la chaleur qu'ils reçoivent du feu. L'eau chaude peut réchauffer les pieds. Ça peut réchauffer, donc. Et l'eau chaude n'est pas chaude par nature. Elle est chaude grâce au feu. Donc, par une médiation. Elle est médiatrice. L'eau est une excellente médiation. On voit très bien. C'est la meilleure façon de chauffer. Une telle réponse ne prouve donc pas que l'âme du Christ qui connaît toutes choses à l'aide des similitudes qui lui sont infusées par Dieu, ne puisse également, par ces mêmes similitudes, produire toutes choses. Oui, c'est très intéressant. Saint Thomas pousse l'intentionnalité plus loin que la première réponse. La première réponse, considérez, vous voyez que la toute-puissance, regardez le point de vue de l'être, le point de vue de la puissance, était à cause de l'effet, regardez donc l'exister, et non pas uniquement l'intentionnalité, alors que la connaissance s'enfermait dans l'intentionnalité. Alors, dans l'intentionnalité, il n'y a pas de raison d'aller dans l'infini. Le Christ, d'une certaine manière, est infini par sa connaissance. Mais on reste dans l'intentionnalité. Tandis que dès que je suis au niveau de la puissance active, je regarde la réalité exister. Donc, elle est limitée. Certainement, c'est pas suffisant, ça. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, il faut pousser l'intentionnalité plus loin. Parce que même la toute-puissance suit la forme, et suit la forme intentionnelle, l'idéa. Quand vous avez une idée, vous êtes capable d'agir. Or, l'idée est dans l'ordre de l'intentionnalité. Alors, si vous avez donc possibilité d'avoir une infinité de formes, une idée qui pousse tous les jours... Donc, chaque matin que vous voulez, vous avez une nouvelle idée. Ça arrive, ça. On pond un œuf par jour, et une idée par jour. Alors, vous voyez, chaque matin, une idée nouvelle pour voir réaliser quelque chose. Réaliser, donc, l'intentionnel. Saint Thomas dit, attention, on reste dans l'ordre de l'intentionnalité, là. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des formes intentionnelles et qui nous oriente vers l'action d'une certaine manière infinie. C'est pourquoi il faut considérer que ce qu'une nature inférieure reçoit d'une nature supérieure est toujours possédé par elle d'une manière moins parfaite. Vous voyez la manière dont saint Thomas parle de la participation, c'est intéressant. Id quod est a superiori natura inferiori cipitur, habetur per inferiorem modum. Ainsi, la chaleur ne se trouve pas dans l'eau avec la même perfection et la même puissance que dans le feu. Puisse donc que l'âme du Christ est d'une nature inférieure à la nature divine. Les similitudes des choses ne seront pas reçues en elle avec la même perfection et la même puissance qu'elle se trouve avoir dans la nature divine. De là vient que la science de l'âme du Christ est inférieure à la science divine, soit en ce qui concerne le mode de connaître, puisque Dieu connaît d'une manière plus parfaite que l'âme du Christ, soit en ce qui concerne le nombre des choses sues, puisque l'âme du Christ ne connaît pas toutes les choses que Dieu peut faire et qui sont l'objet de sa science de simple intelligence. Néanmoins, elle connaît tout le présent, le passé, le futur que Dieu connaît par sa science de vision. De même, les similitudes des choses imprimées dans l'âme du Christ n'élèvent pas son activité jusqu'à égaler la puissance divine elle-même. Elles ne lui permettent pas de faire tout ce que Dieu peut faire, ni non plus d'agir à la manière dont il agit, c'est-à-dire par une puissance infinie, dont la créature n'est pas capable. De plus, aucune chose ne requiert pour être connue de quelque manière une puissance infinie, bien qu'il y ait un mode de connaître qui suppose cette infinie puissance. Au contraire, il y a des choses que l'on ne peut faire qu'à la condition de posséder une puissance infinie, telle la création et les autres réalités de même, du même genre. Ça, c'est très amusant. Quelles sont les autres réalités du même genre? Ça, quoi? Mais je sais bien, c'est sûrement pas ça. Quand on dit des glosses comme ça, c'est toujours un peu marginal. Vous voyez, c'est un homme a dit Nisi, a virtute infinita, secut creatio, et alia uius modi, ut patet existent. Et d'autres choses semblables, mais pas du même genre, hein, parce que rien n'est dans le même genre que la création. L'âme du Christ, parce qu'elle est une créature et qu'elle possède une puissance limitée, peut donc sans doute connaître toutes choses, mais non les connaît de toute manière. Par ailleurs, elle ne peut produire toutes choses, car cela appartient en propre à la toute-puissance. En particulier, il est manifeste qu'elle ne peut se créer elle-même. Non potes creare se ipsam. L'âme du Christ se créerait elle-même, autrement. Si l'âme du Christ était toute-puissante, elle pourrait se créer elle-même. Alors, vous voyez, le causa sui. Le causa, c'est ipsam. Alors, vous voyez le raisonnement de saint Thomas. C'est intéressant à voir. Il considère que la première raison n'est pas suffisante. Pourquoi? On peut aller plus loin. On peut essayer de comprendre que l'ordre, l'infini de la connaissance du Christ est lui-même un infini relatif. Et non pas l'infini absolu. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'ordre de l'intention, on est dans l'ordre de l'intelligence, de l'intentionnalité. L'intentionnalité n'est jamais première. Donc, elle dépend nécessairement de quelque chose de premier. La connaissance de Dieu est substantielle, elle est première. La connaissance du Christ n'est pas substantielle, elle est intentionnelle. Et donc, elle est limitée, elle est mesurée par la science de Dieu. Et parce qu'elle est mesurée par la science de Dieu, elle-même n'est pas infinie. A fortiori la toute-puissance. A fortiori la puissance du Christ. Oui. Donc saint Thomas va plus loin, c'est intéressant à voir, hein, ne considérant que cette première raison n'est pas suffisante. Oui.
Il a trois termes, la science, la virtus et la puissance. D'ailleurs, dans la traduction, virtus et puissance ne sont pas toujours distingués.
Non, non, ils ne sont pas. Parce que toute puissance implique une virtus.
Et la science, il parle aussi de la virtus de la science.
Oui, oui.
Préciser.
Je crois que, pour revenir à ce qu'il avait dit précédemment, tout est là, je crois. Quand il dit nature, forme, forme, appétit naturel, il ne le dit pas ici, il le dit constamment. Ça c'est un aspect constant dans sa domaine. Et puis, forme, l'appétit actif, la puissance active. Or, puissance active implique la virtus. Vous voyez ? Puissance active, la puissance agendi implique la virtus. Et la virtus, c'est cette capacité de la puissance d'agir. Donc quand je dis puissance, tout simplement, s'il peut une puissance passive, une puissance active. Et donc la puissance active qualifie la puissance et permet de présider ce que c'est la virtus. La virtus, c'est ma capacité d'efficience sur quelqu'un, sur la matière ou tout simplement sur le fait de la création. La virtus de la toute-puissance de Dieu est infinie, parce que c'est une virtus qui n'applique aucune limite et qui agit directement sur l'être. Oui, je crois que c'est ça la différence entre les deux. Virtus qualifie la puissance, quoi. C'est une qualité qu'une qualité. Oui.
Est-ce que dans une perspective qui met l'intelligible en premier lieu, il y a encore une possibilité de faire la création, ou est-ce que c'est nécessairement l'émanation et la participation?
Je crois que c'est nécessairement l'émanation et la participation. La création regarde l'essai.
Donc nécessairement, il y a au moins une tendance très forte au panthéisme.
Ah oui, toujours, toujours. C'est la tendance du néoplatonisme. Le néoplatonisme frise toujours le point de vue du panthéisme. Ça ne dit pas avec assez netteté ce que c'est que la création. Et alors, voyez ici la conséquence ici. C'est de voir que l'âme du Christ serait toute puissante. Qu'on ramènerait le point de vue de la puissance à la connaissance, mais on n'irait pas jusqu'au bout et on ne verrait pas suffisamment que même la connaissance du Christ est relative, la science divine. Dernière objection. L'âme du Christ a possédé toute science. Vous voyez, c'est très curieux de voir les objections. Toutes les objections sont assimilées, veulent assimiler le problème de la connaissance au problème de la puissance. C'est ça qui est intéressant à voir. Et toutes les réponses de saint Thomas montrent la différence entre le domaine de la science et le domaine de la puissance. Donc tendre à distinguer les deux. L'âme du Christ a possédé toute science, mais la science se distingue en pratique et en spéculative. Le Christ a donc eu la science pratique des choses qu'il connaissait. En d'autres termes, il savait faire les choses qu'il connaissait. Par suite, il semble qu'il pouvait faire toutes choses. Voilà, c'est le pratico-pratique. Réponse de saint Thomas. L'âme du Christ a possédé la science pratique et la science spéculative. Il n'était pas nécessaire, cependant, qu'elle eût la science pratique de toutes les réalités dont elle avait la science spéculative. Pour posséder la science spéculative, en effet, il suffit de la seule conformité ou assimilation du connaissant à la chose connue. Il suffit. C'est ça l'essentiel de la connaissance spéculative. Ad scientiam in speculativam abundam sufficit sola conformitas vel assimilatio scientis ad rem scitam. Pour la science pratique, au contraire, il faut que les formes des choses qui se trouvent dans l'intelligence soient effectives. Ad scientiam practicam recurritur quod formere rum que sunt in intellectus sint factive. Vous voyez, c'est le factive qui implique la puissance et la virtus. C'est le factivé. On est capable de réaliser. C'est la capacité d'efficience. C'est ça, du reste, la virtus. C'est la capacité d'efficience. Or, posséder une forme et imprimer cette forme dans un autre, c'est plus que posséder simplement la forme. De même, être à la fois lumineux et éclairant, c'est plus que simplement lumineux. C'est pourquoi l'âme du Christ possède sans doute la science spéculative de la création. Elle sait en effet de quelle manière Dieu crée. Hein ? Vous voyez la science spéculative du Christ ? C'est ce qu'on disait hier, la sagesse. Il le dit ici. Elle sait en effet de quelle manière Dieu crée. Ça fait partie de la science acquise du Christ. Mais elle n'en possède pas la science pratique, parce qu'elle ne sait pas effectivement créer. Vous ne savez pas ce que c'est que pratiquement créer. On ne sait pas. Mais on sait spéculativement. Jésus savait, spéculant du Christ, savait spéculativement ce que c'était créé dans sa sagesse philosophique et dans sa science infuse, mais il ne savait pas pratiquement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, dites. Il crée des sophismes. Oui, mais c'est très bon, il faut les sortir. Tous les sophismes, il faut les sortir. C'est le Proter Vus.
La science du Christ, dans la vision béatifique, c'est Dieu lui-même.
Oui. Ah, il n'en sort pas de la vision béatifique. Hein. Alors, la science du Christ dans la vision béatifique, c'est Dieu lui-même. Oui.
Et donc, la science du Christ, dans son œuvre par la vision béatifique, n'est pas possédée selon un mode moindre. Puisque c'est Dieu lui-même.
Oui, mais c'est du côté de l'acte. Du côté de la spécification de l'acte, c'est Dieu lui-même. Mais du côté de l'exercice, ce n'est pas Dieu.
Il y
a quand même un acte. Il y a un acte de vision.
Cet acte de vision,
c'est Dieu. Non. C'est le bienheureux. Autrement, il ne serait pas bienheureux. Vous voyez l'ontologisme ? L'ontologisme poussé jusqu'au bout, c'est ça. Le bienheureux produit un acte de vision, qui est son acte ultime, l'entelekeia. Et l'energeia, c'est Dieu lui-même. C'est jusqu'au bout. Qu'est-ce qui détermine l'acte de vision ? C'est Dieu lui-même. Mais l'acte de vision est posé par le bienheureux et il est limité. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est le Maine Glorier.
Oui, c'est le Maine Glorier qui permet l'acte de vision.
Le Maine Glorier n'est pas un acte.
Non, le Maine Glorier permet de poser l'acte de vision béatifique.
Oui. Le verbe acte une puissance.
Mais c'est le bienheureux qui produit la vision béatifique. La vision béatifique.
Quoi ?
Oui, la vision béatifique. Pour poser la vision béatifique, il faut que mon intelligence soit surélevée par le Lumen Glorier. Le Lumen Glorier est créé dans l'intelligence, transformé par l'amour. Vous voyez ? Il faut que l'intelligence soit transformée par l'amour, ouverte à l'amour, qu'elle soit capable alors de recevoir le Lumen Glorier. Et par le Lumen Glorier, le bienheureux produit la vision béatifique. Et qu'est-ce qui spécifie cette vision béatifique ? C'est Dieu lui-même.
C'est seulement la spécification ?
Ah oui, forcément. Autrement, ce serait plus un acte du bienheureux. Vous voyez ? C'est la différence qui existe entre la vision béatifique du bienheureux et la connaissance que Dieu a de lui-même. La béatitude de Dieu est unique. Cette béatitude, je participe à cette béatitude autant que je le peux.
Sinon, je deviens Dieu par essence.
Oui, autrement, je serais Dieu. Je suis Dieu dans ma vie, mais pas dans mon être. Je serais absorbé par Dieu, quoi, tout simplement. Je n'irais plus que Dieu. Oui.
Si c'est mon acte, je suis
oui, mais oui, mais c'est même dans l'acte de connaissance est propre au bienheureux. Bon, second article, mais c'est fait sortir, vous voyez, tous les petits sophismes, hein, sortez-les. Article 2. L'âme du Christ a-t-elle possédé la toute-puissance en ce qui concerne les changements à produire dans la créature ? Enfin, ici, c'est la toute-puissance par rapport au miracle. Cependant, c'est à celui qui conserve les créatures qu'il appartient de les changer. Or, la conservation des êtres est l'œuvre de Dieu seul, selon cette parole de l'Épître aux Hébreux. Il porte tout par sa parole toute-puissante. Dieu seul possède donc la toute-puissance en ce qui concerne les changements des créatures. Portans omnia verbo virtutis sue. Hein ? Alors vous avez le virtutis sue. Portans omnia verbo virtutis sue. Alors, réponse de saint Thomas. Il faut faire état ici d'une double distinction. La première ayant rapport au changement des créatures. Ex parte transmutationis creaturarum. Oui, c'est pour ça que le français traduit mal. Évidemment, c'est très difficile, la transmutation. Transmutatio, c'est transmutatio. C'est pas seulement une mutatio, c'est une métamutatio. C'est un changement radical. Il faudrait mettre un changement radical par rapport au changement radical des créatures. C'est la transmutatio. Il y a en effet trois sortes de changements. Triplex est. Trois sortes de changements. L'un naturel, qui a pour cause son propre agent et qui agit et qui respecte l'ordre de la nature. L'autre, miraculeux, qui a pour cause un agent surnaturel et qui dépasse l'ordre et le cours ordinaire de la nature. Ainsi, par exemple, la résurrection des morts. Un troisième, enfin, est la conservation de la créature au néant. C'est tertiatem omnis creatura vertibile est nihilum. Alors comprenez bien, la conversion au néant, c'est une conversion assez particulière celle-là, c'est la retraite des 30 jours, n'est-ce pas ? Le vertibile est nihilum. On est le vertige dans le néant. Alors c'est la conversion vers le néant. C'est extraordinaire. Vertibilis est nihilum. Ça, il faut y réfléchir beaucoup. La seconde distinction se rapporte à...